C'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour inaugurer cette 6e saison de Feu de camp, qui sera, je l'espère, à la hauteur de vos attentes. J'ai préparé quelques histoires délicieusement macabres et de nouveaux défis à relever, mais je vous propose de commencer en douceur, histoire de se mouiller un peu la nuque avant de sauter dans le grand bain. Et quoi de mieux comme échauffement qu'une bonne vieille maison hantée comme on les aime? Voici donc l'histoire du manoir Clark, dont les racines remontent au 19e siècle aux États-Unis. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp, saison 6, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. Nous sommes le 23 avril 1874, dans un manoir situé au cœur de la ville d'Oakland, en Californie. Il est environ 23 heures, et tous les résidents, ainsi que le propriétaire, Thomas Clark, sont au lit, prêt à entamer une bonne nuit de sommeil. Thomas s'installe confortablement, mais à peine a-t-il posé la tête sur son oreiller qu'il est interrompu par le son d'une cloche. C'est celle de la porte d'entrée. Il se lève et se rend immédiatement dans le hall pour ouvrir la porte, mais il ne voit personne. Il se dit qu'il a dû rêver, ou que c'est peut-être le vent, et il retourne se coucher. Là encore, il n'a pas le temps de s'installer que la cloche retentit encore plus fort. Il se rue vers la porte d'entrée, l'ouvre en grand et... personne. Il fait quelques pas à l'extérieur et profite de la lumière de la lune pour scruter les environs, mais il n'y a vraisemblablement pas âme qui vive aux alentours de la maison. Lorsqu'il retourne à l'intérieur, il tombe sur Monsieur B, l'un des locataires des chambres qui se trouvent à l'étage, et lui demande si c'est lui qui fait du bruit avec sa pendule. Celui-ci lui assure que non, et ajoute que lui aussi a entendu la cloche sonner. Quand Thomas lui explique qu'il n'a vu personne, Monsieur B retourne chercher son pistolet et se jette dehors, promettant de donner une bonne leçon au garnement qui s'amuse à perturber les soirées des honnêtes gens. Mais au bout de quelques minutes, il rentre bredouille, n'ayant trouvé aucun chenapan à réprimander. Les deux hommes discutent un moment dans le hall et échangent leurs théories sur l'origine du bruit, dans l'espoir de percer ce mystère, mais ils se rendent finalement à l'évidence. Ils n'ont aucune explication rationnelle à proposer. Ils se souhaitent alors bonne nuit pour la deuxième fois et retournent dans leurs chambres respectives, loin de savoir ce que cette nuit leur réserve. L'accalmie est de courte durée. 23h32. Les résidents du manoir sont dérangés par un vacarme assourdissant venant de la salle à manger. Thomas s'y précipite et constate que tous les meubles tremblent violemment. Monsieur B le rejoint, pistolet à la main, mais constate une nouvelle fois l'absence de coupable à viser avec son arme. L'homme fait alors demi-tour et retourne dans le hall à la recherche de quelqu'un, n'importe qui à accuser et à punir, laissant Thomas seul dans le salon. Mais rapidement, sa voix retentit et il somme le propriétaire de le rejoindre au plus vite. Thomas obtempère, mais lorsqu'il arrive dans le hall, il retrouve Monsieur B agenouillé près d'une fenêtre, loqué entre les doigts. Il annonce alors que c'est sans doute par là que le responsable de tout ce bazar est entré, puis ressorti en vitesse. Il ajoute qu'il a senti quelqu'un le pousser dans le dos quand il s'est précipité dans le hall. Bien qu'il n'ait rien vu, il en déduit que le coupable l'a bousculé dans sa fuite effrénée et que Monsieur B n'a rien pu y faire. Thomas regarde autour de lui et constate une deuxième anomalie dans le paysage. Une chaise est renversée sur le sol, en plein milieu du parloir. Lorsqu'il demande à son locataire s'il sait ce qu'elle fait là, celui-ci lui répond qu'il n'en sait pas plus que lui, qu'elle était déjà là lorsqu'il s'est approché de la fenêtre et que le fauteur de trouble a dû la renverser dans sa fuite. Dépités, les deux hommes retournent dans leur chambre. Minuit 24. Évidemment, peu de temps après, ils sont à nouveau attirés hors de leur chambre par un bruit venant du parloir. Cette fois, la fille de Thomas, Nelly, se joint à eux pour tirer cette affaire au clair. Sa chambre se trouvant à l'étage, celle-ci commence à descendre les escaliers pour rejoindre les hommes au rez-de-chaussée, quand soudain, elle entend Monsieur B crier derrière elle « Attention !» Elle tourne la tête et voit un panier rempli d'argenterie dévaler les escaliers et la frôler de quelques centimètres avant de se répandre sur le sol. Fort heureusement, la jeune femme n'est pas blessée par cette étrange attaque. Mais la maison ne leur laisse pas le temps de reprendre leur souffle avant de lancer une nouvelle offensive. Minuit 42. Un autre bruit retentit. Cette fois, il provient de la chambre de Monsieur O, qui se trouve également à l'étage. La petite bande remonte les escaliers pour suivre la source du bruit. En arrivant dans sa chambre, Monsieur O constate que sa montre se trouve désormais sur une chaise, alors qu'il était certain de l'avoir laissée dans sa veste. Jusque-là, rien de bien extraordinaire, surtout compte tenu de ce dont ils viennent d'être témoins. Mais lorsque la montre commence à s'élever seule dans les airs, l'ambiance redevient glaciale. Le petit groupe la regarde léviter, puis d'un coup, elle traverse la pièce et vient heurter Monsieur B au niveau du coude, si fort qu'il en a les larmes aux yeux. Les trois hommes et Nelly redescendent alors dans la salle à manger pour se remettre de leurs émotions, mais là encore, l'esprit farceur leur laisse peu de répit. Sous leur regard médusé, les chaises en chaîne massive décollent dans les airs, environ 30 cm au-dessus du sol, et volent à travers la pièce sur 3 mètres avant de se poser par terre comme si de rien n'était. Monsieur O exprime sa peur d'un simple « je n'aime pas ça du tout », ce à quoi Monsieur B répond « moi non plus ». Je n'aime pas les menaces sur lesquelles je ne peux pas tirer. 1h01. Un nouveau son retentit dans le hall. Et encore une fois, le petit groupe se déplace pour aller enquêter. Sur le sol se trouve un énorme sac de charbon qui se trouvait auparavant à l'étage. Déduction, il a été jeté par-dessus la balustrade avant de se répandre bruyamment sur le sol. Et tandis que nos détectives en herbe constatent les dégâts, il voit une chaise dévaler les escaliers, balancée elle aussi avec force par un ennemi invisible. Naturellement, plus personne n'est capable de trouver le sommeil après ça, et la totalité des résidents du manoir se retrouvent alors dans la salle à manger pour parler de la situation. Après avoir longuement décrit les scènes et débattu de leur origine, n'ayant pas constaté d'autres anomalies depuis un moment, tout le monde décide de retourner au lit, ne voyant pas quoi faire de plus. Il décide également de ne plus répondre aux provocations de l'entité responsable de tout ce fracas, quoi qu'elle fasse pour attirer leur attention. Et une fois que toute la maisonnée est de nouveau confortablement installée et prête à retrouver le sommeil, le manoir tout entier se met à trembler, comme si un séisme venait de frapper le quartier. Mais ils tiennent bon, s'accrochent à leur lit et attendent que ça passe. 1h21, un nouveau bruit. Il provient du parloir. Thomas craque et sort de sa chambre en trombe. Il découvre alors tout le mobilier sans dessus-dessous et s'adresse à l'esprit frappeur pour lui dire que puisque c'est comme ça, il ne remettra rien en place et que les meubles resteront là où ils sont. Manifestement, l'esprit n'apprécie pas la rébellion du propriétaire et ce dernier voit alors la porte d'entrée être littéralement arrachée de ses gonds et projetée sur le sol. Il admet alors sa défaite et, à l'aide des autres hommes, remet la porte en place. Éreintés, ils retournent dans leur chambre et réussissent enfin à s'endormir. Le reste de la nuit se déroule sans incident. Le 24 avril, autour de 20h30, une partie des résidents est réunie dans la salle à manger pour le dîner, lorsque Nelly annonce que les événements de la veille l'ont épuisée et qu'elle va donc se coucher pour tenter de rattraper cette nuit catastrophique. Alors qu'elle est en train de monter les escaliers, Thomas lui dit, en rigolant, « Attention à ta tête !» en faisant référence à l'attaque du panier d'argenterie. Elle lui répond alors sur le même ton qu'il est trop tôt pour les fantômes. Mais bien sûr, aucune provocation ne semble rester impunie dans cette maison. Comme pour lui prouver son erreur, une chaise traverse le palier et vient se placer en travers des escaliers, comme pour l'empêcher de monter. Thomas se précipite pour remettre la chaise à sa place et libérer le passage pour sa fille. Tous les résidents se rassemblent dans la salle à manger pour échanger leurs théories, et l'une des locataires, Madame F, annonce qu'elle ne supportera pas de subir une deuxième nuit comme celle qu'ils viennent de vivre. Et évidemment, leur discussion est interrompue par un bruit terrible venant du hall, parce qu'on ne peut décidément pas être tranquille 5 minutes dans cette baraque de l'enfer. Le bruit évoque celui du bois brisé, mais lorsque Thomas se rend dans le hall, il n'y trouve qu'une seule chaise, intacte. Nelly, excédée, s'adresse alors directement à l'entité, et lui dit que si elle a l'intention de recommencer son bazar avec les meubles, autant le faire maintenant, histoire d'en être débarrassée. Et surprise, surprise, l'esprit s'exécute et se met à faire voler d'autres chaises dans tous les sens, avant de les laisser retomber lourdement sur le sol. Après ça, les choses se calment un temps, puis une fois de plus, des bruits retentissent et des chaises sont retrouvées éparpillées partout. Et puis, plus rien pour le reste de la nuit. Le lendemain, le 25 avril, un article à propos du fantôme d'Auckland sort dans la presse locale. La rumeur se répand si vite qu'à la fin de la matinée, la maison de Thomas est cernée par les curieux qui se pressent par centaines dans l'espoir d'être témoins des agissements du poltergeist. Le soir, quand Thomas et le reste des résidents s'installent pour dîner, le repas est régulièrement interrompu par les coups de téléphone des proches et amis des habitants du manoir qui veulent prendre de leurs nouvelles après avoir entendu la rumeur sur le fantôme. Et bien sûr, autour de 21h, le cirque recommence et les chaises se remettent à tournoyer dans les airs un peu partout dans la maison. Puis un son de cloche retentit, en provenance de l'entrée, mais s'accompagne cette fois d'un second, provenant de la cuisine. C'est une véritable cacophonie. Au bout de quelques secondes, heureusement, le vacarme prend fin, mais il est remplacé par le bruit des meubles qui passent par-dessus la balustrade avant de s'écraser dans le hall. N'en pouvant plus, Thomas finit par rassembler toutes les chaises et les enfermer dans la chambre de Monsieur O. Plus tard, alors que plusieurs des résidents sont rassemblés dans le parloir, y compris Monsieur O, qui est assis dans un fauteuil et tente de lire son journal tranquillement, celui-ci s'élève brutalement dans les airs. Ses pieds décollent du sol. Il hurle de panique et se jette hors du fauteuil pour retrouver la terre ferme. Il décide alors d'aller se coucher, mais revient tout penaud autour de minuit, avouant qu'il est bien trop nerveux pour trouver le sommeil. De toute évidence, le fantôme n'a pas encore terminé son cirque nocturne, et bientôt, d'autres meubles, coffres et chaises se mettent à voltiger un peu partout dans la maison. Autour d'une heure du matin, alors que Thomas et plusieurs résidents sont encore dans le salon, incapables de trouver le sommeil et profondément agacés par toute cette histoire, le manoir se retrouve soudain baigné d'une intense lumière. Un cri de femme retentit dans le hall, comme un hurlement de désespoir venu des tréfonds de l'enfer. Après ça, plus rien. Le calme absolu. Le lendemain soir, tout le monde se prépare à revivre la même routine et des amis de Thomas viennent même passer la soirée au manoir pour tenter d'y assister, mais rien. Une séance de spiritisme est organisée pour essayer de communiquer avec le fantôme, mais au bout de plusieurs heures sans réponse, ils abandonnent. Suite à la médiatisation de cette drôle d'histoire, plusieurs experts, des professeurs de l'université, des pasteurs et même des avocats, enquêtent sur le phénomène dans l'espoir d'en percer le mystère. Un rapport de plus de 300 pages est rédigé, contenant de multiples interviews de témoins, des analyses poussées et un récit détaillé de chaque manifestation de l'esprit. La théorie la plus plausible, selon eux, est que tout a été orchestré par l'un des résidents, probablement Monsieur B, qui était généralement absent quand le fantôme se manifestait. Leur conclusion est que tout ça n'avait rien de surnaturel, et bien qu'ils ne réussissent pas à prouver la culpabilité de Monsieur B ou d'un autre résident, pour eux, l'affaire est close. Après ça, le manoir n'a plus jamais été perturbé. Thomas, lui, a continué à affirmer toute sa vie que c'était bien un poltergeist et pas un humain qui était à l'origine du phénomène. Mais en 1997, plus d'un siècle plus tard, alors que le manoir a été rasé pour faire place à une autoroute, les résidents des maisons se trouvant à proximité de l'endroit où ils se situaient témoignent dans un journal local. Cindy Chan se réveille régulièrement en pleine nuit, terrorisée par la vision d'une femme qui l'attrape et l'empêche d'allumer la lumière. Dans la maison voisine, Aida Luez raconte que sa mère, décédée depuis, n'a cessé de lui répéter toute sa vie que le quartier était hanté. Son voisin, Tom Catroar, a vu son chat convulser, hurler, puis se jeter par-dessus le balcon du premier étage. Du coup, ça fait réfléchir sur les lois qui régissent les maisons hantées. On aurait tendance à penser que leur destruction suffirait à mettre fin au problème, mais il y a un trou dans cette logique. Si des esprits hantent un lieu, où vont-ils lorsque leur habitat est rasé? Eh bien, apparemment, ils se répartissent le pâté de maison et trouvent d'autres victimes à torturer. En conclusion, mieux vaut condamner les maisons, qui peuvent alors servir de cage, plutôt que de risquer la propagation des poltergeists dans tout le quartier. Enfin, sauf si on veut absolument en adopter un. Ou alors, faudrait peut-être créer des refuges pour poltergeists sans abri? Allez, encore une idée de business gratos, tiens. N'oubliez pas de me filer un pourcentage si ça décolle. Feu de camp est un podcast d'Énergie Création, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Romain Nicolas.